mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 29 avril. Alors, je vais pas faire le récap de tout ce qui s'est passé ce week-end, mais on sent quand même une bonne tension qui continue de s'exacerber dans le pays entre les mobiles racistes et fascistes un peu partout en France, des agressions notamment racistes ou islamophobes, des passages à l'acte principalement de déséquilibrés, hein. Le tout sur fond d'absence de réaction gouvernementale à la hauteur des enjeux. C'est ainsi qu'à la Grand Combe, une marche blanche qui était organisée ce dimanche en hommage à la victime du crime qui a eu lieu dans la mosquée ce dimanche 27 avril. 1 million de personnes se sont rassemblées dans la petite ville du Gard, mais déplorent les manifestants très peu de politique, hein, pas de ministre, pas de député de la circonscription, hein, monsieur Allégret-Pilot, pourtant friand de faits divers. Absente aussi de la marche blanche, la maire de la commune, qui a été notamment ouvertement critiquée par la députée insoumise Rima Hassan sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi à Paris, place de la République, une manifestation de soutien à la famille d'Abou Bakar Cissé, où la gauche tentait d'y apparaître à nouveau unie. Le nom du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était sur toutes les lèvres. Il est accusé par ses attitudes et ses propos d'attiser la haine anti-musulmane, qui débride ainsi les passages à l'acte tels qu'on a pu en voir plusieurs en France ce week-end. Un manifestant, par exemple, relayé dans les colonnes du Figaro, dit « Le fait que Retailleau se soit déplacé 48 heures après sur les lieux du crime montre bien qu'il y a un problème. » À Nantes, où un jeune a tué une adolescente au couteau, jeudi dans un établissement privé, un adolescent bien connu lui aussi pour des problèmes psychologiques, mais aussi pour son adoration un peu morbide de Adolf Hitler. Là, on a remarqué que le ministre s'était précipité sur place pour faire tout un discours sur l'ensauvagement de la jeunesse, l'éducation, etc. Bon, à l'époque, on pensait que c'était peut-être un acte commis par un jeune d'extrême-gauche. Sont également, en tout cas, toujours présentes dans les mémoires ces paroles du Premier ministre, prononcées lors d'un rassemblement pour la République et contre l'islamisme. Hein. C'était au Dôme de Paris par le collectif Agir Ensemble. Bruno Retailleau défendait l'interdiction du voile musulman dans le sport en concluant « Vive le sport et donc abat le voile ». Voilà l'ambiance. En tout cas, les élus qui étaient présents sur place ce dimanche appellent à une grande marche nationale le 11 mai prochain, toujours contre l'islamophobie. Et une petite altercation qui a peut-être un petit peu moins défrayé la chronique, elle est plus locale, et du coup je vous en parle, c'est à Albi que ça s'est passé ce week-end aussi, des affrontements violents. De nuit, entre Patria Albigès et des Antifa, avec plusieurs blessés à la clé. Une nuit donc agitée entre le vendredi et le samedi 26 avril, hein, de violents incidents dans la ville, devant plusieurs bars en effet, on est à Albi, donc dans le Tarn. Plusieurs plaintes ont été déposées suite à ces échauffourées. Beaucoup accusent donc le collectif Patria Albigès, un groupuscule d'ultra-droite local, dont un membre aurait été agressé plus tôt dans la soirée par des militants antifascistes. Donc une enquête est ouverte. En tout cas, la scène a été filmée et elle est relayée sur les réseaux sociaux. C'est assez hallucinant, hein. Des aires d'expédition punitives, hein, sur la terrasse d'un bar d'Albi dans la soirée du vendredi. Un groupe d'une vingtaine de personnes, la plupart masquées, débarque en effet sur la place du Patu Créma. Ils ont menacé là un militant de gauche qu'ils ont reconnu, déjà agressé par le passé par des membres du groupuscule d'extrême droite, donc Patria Albigès, visiblement pour obtenir réparation, vengeance, suite à une altercation qui a eu lieu plus tôt. « J'ai vu un groupe d'une vingtaine de personnes arriver, j'étais clairement visé », donc raconte ce jeune militant de gauche. Il évoque des menaces de mort. Lui a le temps de se réfugier dans le bar, tandis que des personnes présentes en terrasse tentent de s'interposer et d'empêcher donc la vingtaine d'individus de le poursuivre dans le bar. Une partie de l'agression est ainsi filmée et on peut y voir un groupe d'individus, donc je vous le disais, masqués ou à découvert, qui se disent « Allez, on bouge !» Et les choses dégénèrent au moment où ils décident de quitter les lieux. Une dame d'une soixantaine d'années cherche en effet à enlever le masque d'un de ses hommes sur son foulard, et celui-ci lui met un gros coup de poing dans le visage. D'autres personnes s'interposent, échangent de coups, des chaises volent, et puis certains membres du groupe reviennent pour gazer les individus présents en terrasse. Vers 1h du matin, mon mari et moi avons été agressés sur la place devant le bar Le Cosy par une vingtaine d'individus venus attaquer l'établissement. Je lance un appel à témoins pour appuyer notre plainte, expliquer ainsi, c'est une des personnes présentes sur place. Donc pour certains, je vous le disais, ça ne fait guère de doute, hein. Cette violence était l'œuvre des identitaires du groupe Patria Albigès, un groupuscule dont certains membres sont déjà passés en justice pour des provocations publiques à la haine. Et parmi eux, par exemple, le fils de l'ancien député du Tarn, Frédéric Cabrolier. Cet élu donc, du Rassemblement National affirme sur sa page Facebook que l'extrême gauche albigeoise inverse les rôles, et il explique que cette descente était en réalité donc une action punitive contre un militant antifasciste, puisque ça aurait été une attaque effectuée en représailles après l'agression de Clément Cabrolier, donc le fils de l'élu, de l'ancien élu, pardon, au Rassemblement National, Fabrice Cabrolier, et il explique donc son papa. Mon fils s'est fait agresser hier soir au bar O'Sullivan, donc un autre bar, par 8 individus antifa albi, hospitalisé cette nuit jusqu'à 3h du matin. Une plainte a été déposée ce matin, ce qui a été d'ailleurs confirmé par la préfecture. Sinon, parmi les autres membres du groupe, qui ont été identifiés notamment par Libération, un individu visiblement qui s'amusait à se déguiser en rasta, il avait un bonnet jamaïcain et des lunettes de soleil d'aviateur, c'est Thomas Rouquette, membre du groupuscule donc Patria Albigès, une vingtaine d'années, également connu comme candidat du Rassemblement National lors des municipales d'Albi en 2020. Et un autre individu, celui qui avait un foulard tête de mort, le journal Libération y a reconnu Matteo V, qui lui fait partie d'un groupe de supporters ultra de l'Olympique lyonnais. D'autres militants de Patria Albigès et de leurs homologues toulousains, Furie française, étaient également présents. Donc un petit week-end de rassemblement avec des virées nocturnes pour aller retrouver des petits groupuscules qui se cherchent les uns les autres. Et tout ça finit en baston sur des terrasses de bar avec une dame d'une soixantaine d'années donc, qui s'est pris un gros coup de poing et qui a porté plainte et qui était hospitalisée. A noter que le jeune militant de gauche, initialement donc menacé, a lui aussi porté plainte pour violence aggravée et menace de mort. On part au Maroc avec des actions contre la guerre d'Israël contre la Palestine et des travailleurs des ports maritimes, des dockers, qui empêchent la livraison de pièces pour l'aviation israélienne. Le régime marocain est un fer de lance de la normalisation avec Israël dans le monde musulman. Et ainsi, en plein génocide à Gaza, l'État marocain multipliait les gestes de sympathie à l'égard d'Israël en poursuivant notamment des partenariats commerciaux et militaires. Eh bien, une partie du peuple marocain refuse donc cette allégeance et le fait savoir depuis des mois avec des grandes manifestations pour soutenir la Palestine malgré des risques de répression. Au cours des dernières années, des militants marocains ont d'ailleurs été condamnés à des peines de prison ferme, parfois pour plusieurs années, à cause de leur prise de position en faveur de la Palestine et ce, contre les accords de normalisation donc avec Israël de leur gouvernement. Un nouvel épisode, donc ce 20 avril, a eu lieu. C'est à Tanger, un grand port au nord du Maroc, que 1500 personnes ont manifesté contre l'accostage d'un navire qui était affrété par l'armateur danois Maersk, à savoir un porte-conteneur qui était suspecté de transporter des pièces d'avions militaires vers Israël, les fameux avions F-35 qui servent à bombarder Gaza. Les pièces présentes dans ces containers étaient en provenance des États-Unis, en route donc vers la base aérienne de Nevatim au sud d'Israël, qui est une base cruciale pour l'armée de l'air israélienne. Le peuple veut l'interdiction du navire, pas d'armes génocidaires dans les eaux marocaines, quelques-uns des slogans scandés par ce cortège. Et fort donc de la mobilisation, les dockers de Tanger, donc les travailleurs du port, ont refusé de charger ce porte-container. 18 des 20 opérateurs de grue à distance de la première équipe du port ont refusé d'utiliser les machines nécessaires à l'entretien du navire, qui sont donc censés transporter des pièces du F-35. Et lors de la deuxième équipe, ce sont 27 sur les 30 ouvriers qui ont refusé aussi de le faire. Ce que rapporte le média indépendant Jobsite, et tout cela est relayé sur les colonnes du média Contre-Attaque. Deux jours plus tôt, une manifestation importante avait eu lieu à Casablanca aussi pour dénoncer l'arrivée de ce bateau. Elle s'était heurtée à la police. Et plus tôt encore, le 14 avril, un appel lancé par le syndicat des travailleurs portuaires du Maroc appelait justement les travailleurs, usagers et infrastructures opérant dans le port de Casablanca a boycotté ce navire. Ces dockers qui refusent de charger le matériel militaire à destination d'Israël subissent des menaces et des pressions de leur direction. Le média Maghreb Online a donné ainsi la parole à l'un d'entre eux qui explique « Je me sens comme un criminel quand je travaille sur le fret d'armes, je trouve ça terrible, il y a un génocide en cours et j'aide à tuer des gens. Je suis sûr que 99% de tous les Marocains ressentiraient la même chose. » Ce travailleur raconte aussi que par le passé, des dockers avaient dû charger des pièces d'hélicoptères, des camions de transport de prisonniers, des chars ou des bulldozers sur des portes-containers qui devaient ensuite se rendre à Haïfa en Israël et que pour eux, cette fois-ci, il n'était plus question d'obéir. La situation semble d'ailleurs avoir pris une telle proportion qu'un patron de la firme danoise Maersk s'est rendu à Tanger avec un groupe de dirigeants pour exiger la reprise du travail. Or, cette immense entreprise de transport maritime, qui est un des complices essentiels justement du trafic d'armes, puisqu'elle achemine ses armes jusqu'en Israël, est contestée jusqu'à son propre pays. Des manifestations ont en effet eu lieu au Danemark contre ces mêmes navires à destination d'Israël. Et tout cela montre bien, une fois de plus, que sans la logistique, la chaîne d'approvisionnement et tous ces flux, aucune guerre n'est possible. Et ainsi, les travailleurs et travailleuses ont le pouvoir d'empêcher ces massacres. Enfin, les navires de la firme Maersk ne sont plus les bienvenus, d'ailleurs, en Espagne, dans les ports, mais ils sont aussi contestés en France. Ainsi, le 14 avril, le syndicat CGT des dockers de Fos-sur-Mer a fait savoir qu'il refuserait de prendre en charge un navire de l'entreprise Maersk si celui-ci transportait du matériel militaire ou des armes à destination d'Israël. D'ailleurs, un petit tour en Espagne, hein, sur la même thématique, le gouvernement espagnol vient de rompre jeudi dernier un contrat d'armement d'une valeur de 6,8 millions d'euros avec une entreprise israélienne. L'annonce de ce contrat passé récemment avait d'ailleurs provoqué un tollé au sein de la gauche espagnole, d'où ce retrait, puisque Madrid s'était précédemment engagé à ne pas conclure le moindre contrat d'armement avec Israël. Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez et son allié de la gauche radicale Sumar sont en effet fermement engagés avec la cause palestinienne. C'est ce qu'indiquait une source proche du pouvoir. Et donc pour cette raison, depuis le 7 octobre 2023, l'Espagne n'achète ni ne vend d'armement aux entreprises israéliennes et ne le fera pas non plus à l'avenir. Ça c'était le communiqué initial. Le gouvernement espagnol, qui a reconnu en mai dernier l'état de la Palestine, fait de son soutien à la cause palestinienne l'un des axes de sa politique étrangère et il entretient donc des relations exécrables avec le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou.
Je fais what? Mais d'où ça sort quoi? D'où ça sort?
Eh ben on sait toujours pas d'où ça sort visiblement, cette énorme panne d'électricité qu'a touché l'Espagne, le Portugal et même un petit bout de la France apparemment de manière assez courte. Ça fait plus d'une quinzaine d'heures après le début de cette panne massive qui avait plongé la péninsule ibérique dans le noir que les raisons de l'incident restent encore un mystère. L'électricité a fini par revenir progressivement donc en Espagne et au Portugal au cours de cette nuit, après de longues heures d'une coupure de courant exceptionnelle, d'origine inconnue, qui a semé le chaos dans les deux pays. À 4 heures ce matin, le courant avait été rétabli à près de 92% côté espagnol, et au Portugal, 6,2 sur 6,5 millions de foyers avaient été reconnectés au réseau au milieu de la nuit. L'approvisionnement a aussi été partiellement rétabli grâce aux interconnexions justement avec la France et le Maroc et la réactivation de centrales à gaz ou des centrales hydroélectriques. Tandis que le Premier ministre portugais, Luis Montenegro, estimait que l'origine de l'incident était à trouver probablement en Espagne, le gouvernement espagnol, lui, ne s'est pas risqué à donner une explication sur les causes de la coupure sans précédent. Jamais il n'y avait eu un tel effondrement du réseau, expliquait le Premier ministre hier soir, en précisant que 15 gigawatts d'électricité avaient été soudainement perdus, le tout en à peine 5 secondes. Aucune hypothèse n'est écartée, a-t-il martelé, sans en dire davantage. Et avant de prendre donc la parole hier soir, le gouvernement espagnol est resté muet de longues heures, ce qui a laissé libre cours à de multiples hypothèses des plus farfelues. Il explique qu'il faut par exemple s'assurer d'avoir écarté la possibilité que la défaillance du système électrique ne soit pas due à un déséquilibre entre la production produite par les différentes sources d'énergie et la demande requise. on peut avoir une chute d'un système s'il y a vraiment une très grosse différence entre la demande et la production. Car, dit-il, au moment de l'incident, la couverture de cette demande en Espagne était principalement assurée par l'énergie photovoltaïque et éolienne, et dans une moindre mesure du nucléaire et du gaz. Une chute soudaine de la production d'énergie éolienne, ce qui est possible, pourrait avoir provoqué ce déséquilibre. Ça, c'est le journaliste qui l'explique en notant que cette possible défaillance du système interviendrait au plus fort du débat, justement, sur la fermeture définitive des centrales nucléaires et le remplacement par des énergies vertes, un débat qui clive en ce moment en Espagne. Et d'ailleurs, y en a qui n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Hein. D'ailleurs, le parti Vox, pardon, le parti espagnol d'extrême droite, a sauté les deux pieds sur cette conclusion en affirmant hier que la panne prouvait qu'ils avaient raison de s'opposer au fanatisme climatique et au programme woke de Bruxelles. D'autres hypothèses ont aussi été évoquées hier. L'agence Reuters a rapporté que la compagnie chargée de la gestion du réseau électrique portugais prédisait qu'un phénomène météorologique rare en Espagne pourrait être la cause de la panne d'électricité, avec une histoire de différence de température. Mais d'autres sources du même organisme ont par la suite démenti cette info. Elle faisait état d'un supposé changement de température à l'intérieur de l'Espagne. Visiblement, c'était pas ça. Et aussi la possibilité du piratage des hackers. Donc, possibilité d'une cyberattaque a évidemment été envisagée aussi. Mais préparer et exécuter une telle opération capable de couper l'électricité de presque deux pays entiers est très complexe, estime toujours El País, le quotidien espagnol. Une panne d'électricité de cette ampleur causée par une cyberattaque serait compliquée parce qu'il existe de nombreux réseaux électriques segmentés. Une partie à noter aussi, petit fait rigolo, une petite partie du Groenland a aussi été privée hier soir de tout moyen de communication, téléphone, SMS, internet, puisque ces moyens de communication sont en partie gérés depuis l'Espagne, on l'a appris. C'est ce qu'a annoncé le fournisseur local Tousas, qui étudie donc son possible lien avec la panne géante qui a eu lieu dans cette péninsule ibérique.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Et pendant ce temps-là, des petites infos assez dures à trouver d'ailleurs en français, mais relayées sur le site Lutte Invisible, qui documente pas mal d'actualités internationales et qui nous dit qu'il y a tellement de manifestations, grèves, protestations, semi-insurrections ou soulèvements divers au Pakistan tous les jours qu'on se demande comment le pouvoir tient encore. On peut notamment voir des photos et des vidéos de manifestations qui ont eu lieu hier ou avant-hier, des manifestations proches de l'insurrection dans des provinces de Khyber Pakhtunkhwa, donc les Pashtuns, du Gilgit Baltistan, ça c'est la province du Chigar, au Balouchistan, vers Karachi et aussi de l'Azad de Cachemire. Alors je connais pas bien toutes les régions du Pakistan, mais en tout cas il ne reste plus que la province du Punjab qui n'est pas encore basculée pour le moment dans un soulèvement de longue durée de la population. Et un petit mot d'ailleurs sur ce qui se passe au Balouchistan. Balouchistan, c'est une nation qui est à travers trois États, une nation effacée par les frontières coloniales, donc à cheval sur le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan, un petit peu à la manière de ce qui se passe pour les Kurdes entre la Turquie, la Syrie et l'Iran et l'Irak. Là, au Balouchistan, ce sont donc trois États qui ont fait de ce territoire une prison à ciel ouvert, niant son identité, exploitant là aussi des ressources et massacrant une partie de sa population. Au Pakistan, par exemple, l'armée mène depuis des années des raids meurtriers, brûle des villages et enlève les militants qui tentent de s'opposer. En Iran, des exécutions publiques sont devenues une arme de terreur contre les Balouches, avec notamment un pic de pendaison pour l'année dernière, en 2024. Et côté Afghanistan, les talibans au pouvoir traquent et éliminent les Balouches qui osent revendiquer leur identité. C'est notamment un militant des droits humains et coordinateur du média qui s'appelle Pank, qui s'appelle Jamal Baloch, et qui explique « Nos jeunes disparaissent et leurs familles doivent mendier auprès des autorités pour retrouver leur corps. C'est une guerre psychologique, ils veulent nous briser. » Là aussi, le parallèle avec le Kurdistan est assez frappant des fois, notamment les femmes qui sont au cœur de la résistance. Une militante emblématique, Mahrang Baloch, incarne cette révolte. Et elle dit que l'exemple des flammes kurdes inspire les militants de Baloutch. Les combattants du Rojava nous montrent qu'une révolution peut être portée par les femmes. Chez nous aussi, elles prennent la tête du combat. Les revendications des Baloutch sont assez claires. La fin des disparitions et des exécutions, la reconnaissance officielle de leur langue et de leur culture, la souveraineté sur leurs terres et leurs ressources, et enfin et surtout l'indépendance totale.
Allah !
Mais qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
C'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Et on termine ces nouvelles du monde avec quelques petites brèves piochées, notamment dans les colonnes du média écologiste Reporter. On y lit que face au risque de pandémie de grippe aviaire et à la circulation croissante donc, de ce virus, des virologues du monde entier appellent les gouvernements à prendre des mesures. C'est une analyse qui est publiée ce 29 avril dans la revue The Lancet, une revue scientifique, dans laquelle les chercheurs alertent sur les 70 cas qui ont été recensés jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, dont un mort. Le virus H5N1 est également d'ailleurs présent au Canada. Ce sont les virologues du Global Virus Network, qui est une coalition internationale regroupant plus de 80 centres de virologie dans plus de 40 pays, qui proposent une approche multidimensionnelle pour se préparer à une éventuelle pandémie. Cette approche inclut un renforcement de la surveillance de la maladie et des infrastructures de santé, l'amélioration de la biosécurité dans les fermes ou encore le développement de vaccins pour les humains et les animaux. Alors que ce réseau donc, de virus global de chercheurs souligne le manque de surveillance et de tests pour évaluer la propagation du virus H5N1. Son président, Christian Bréchot, estime qu'un solide système de surveillance à l'échelle nationale est essentiel pour détecter rapidement les animaux infectés, les mettre en quarantaine et mettre en œuvre des mesures préventives afin de freiner la propagation et les infections humaines. Après Chamonix, en Haute-Savoie, c'est au tour de la ville de Bourg-Saint-Maurice de réglementer les locations Airbnb, les locations touristiques de montagne. Dans cette commune de Savoie, maintenant, toute nouvelle location d'un logement pour une courte durée devra obtenir une autorisation qui sera délivrée par la mairie, et ce à partir de ce 1er novembre. Il y a une tension extrême sur le marché de la location. Se loger à l'année devient très difficile, explique en effet le maire Guillaume Déru, qui est affilié d'Hiver Gauche. Et donc une seule autorisation pour la location en courte durée pourra être accordée par personne physique ou foyer fiscal, et ce pour 3 ans renouvelables. Environ 500 logements sont ici concernés, selon la mairie. Les logements meublés loués à des saisonniers pendant l'hiver et mis en location touristique le reste de l'année seront en revanche exemptés par cette réglementation. Face à la crise du logement en montagne, Bourg-Saint-Maurice est ainsi la deuxième commune à adopter des mesures aussi strictes, puisque en mars, c'est Chamonix qui avait déjà interdit la construction de nouvelles résidences secondaires, et que le 1er mai, une mesure pour limiter les locations touristiques, une mesure pour limiter les locations touristiques entrera en vigueur, là aussi à Chamonix.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Au milieu du désastre écologique en cours, voilà peut-être une nouvelle rassurante. Elle concerne les tortues de mer. Celles-ci sont menacées d'extinction un peu partout dans le monde, mais elles montrent, selon les chercheurs, des signes de rétablissement de leur population. C'est une étude mondiale qui vient d'être réalisée et publiée ce 17 avril. De nombreuses populations de tortues se sont reconstituées, mais pas toutes, explique ainsi Stuart Pym pour Associated Press. Il est écologiste à l'université de Duke aux États-Unis. Globalement, donc, dit ce chercheur, l'histoire des tortues de mer est l'une des plus belles réussites en matière de conservation. La protection des plages, où les tortues se rendent pour pondre, et les efforts pour réduire leur capture accidentelle par des pêcheurs font notamment partie des mesures qui ont été mises en œuvre. Cette revue a été publiée dans la revue Endangered Species Research. Elle a porté sur 48 populations de tortues marines sur toute la planète. Les scientifiques ont ainsi mesuré l'impact de la chasse, de la pollution et du changement climatique sur ces animaux aquatiques. Et donc, d'après leurs recherches, les menaces d'extinction diminuent dans plus de la moitié des zones étudiées. Alors, si on regarde dans le détail, il existe toutefois des exceptions selon les espèces, notamment les tortues luttes, qui sont considérées comme celles qui parcourent le plus de kilomètres durant leur migration, qui sont elles toujours exposées à davantage de menaces. Et enfin, on va en Turquie, où la colère continue de gronder contre le gouvernement Erdogan, mais maintenant ce sont les lycées qui prennent la relève après les étudiants. Les lycéens se mobilisent donc et entrent dans la danse contre la dictature d'Erdogan. Une colère traverse en effet les lycées de Turquie, suite à de nombreuses annonces et des menaces déjà mises à exécution de licenciements de profs ou aussi d'élèves bâillonnés, et un régime donc, qui s'enfonce toujours dans la répression. Cette jeunesse, donc, qui se disait un petit peu amorphe là, depuis une quinzaine d'années, vient de mettre encore un beau coup de pied dans la fourmilière. Tout est parti d'une décision du ministère de l'Éducation, turc donc, à savoir celle de muter de force plusieurs milliers de professeurs des meilleurs lycées du pays. Ce sont souvent des enseignants critiques, hein, syndiqués ou simplement pas dans la ligne du régime. Un plan donc qui ressemble à une forme de purge politique dont les Turcs commencent à être un petit peu habitués avec leur président. Tout ça déguisé sous les atours d'une réforme pédagogique. Eh bien, le résultat, c'est une tempête. Des sit-ins, des grèves, des boycotts des cours. Dans tout le pays, les lycéens sont descendus dans la rue. Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, mais aussi des villes plus petites. Là, partout, les élèves se rassemblent pour défendre leurs enseignants. Et le statut des enseignants en Turquie est très très puissant, vu que c'est une république assez jeune, et le statut a vraiment été protégé et presque idéalisé en tout cas par le fondateur de la République, Atatürk. Dans certains établissements, des banderoles entières ont été déployées aux portes des lycées, des cortèges improvisés et des slogans donc, contre le parti d'Erdogan, l'AKP, qui dirige toujours le pays d'une main de fer depuis 2002. Un exemple dans cet article que j'ai trouvé sur le média anarchiste Le Père Pénard. Ce reportage est donc au lycée à Istanbul, le lycée Seremini Anadolu. Les élèves n'ont pas attendu que les adultes réagissent. On ne leur fait plus confiance, explique ainsi la jeune Zeynep, âgée de 16 ans. Elle dénonce une tentative de remplacer les profs par des enseignants plus dociles, islamo-nationalistes dans leur ton, et moins regardants sur l'esprit critique. Ce n'est pas une réforme, c'est une élimination ciblée, dit-elle. Et de fait, dans son lycée comme ailleurs, les enseignants les plus respectés sont ceux qui sont les plus visés, mais donc ce sont aussi les plus critiques. Face à la contestation, le pouvoir d'ailleurs a déjà commencé à reculer. Une suspension partielle de ce projet a été annoncée le 17 avril, mais le tout avec du flou, sans détails ni garantie. Donc pas sûr que ça suffise et les élèves, eux, ont donc décidé de continuer. Des sit-ins pendant les cours, des manifestations, des prises de parole publiques, la colère continue de monter. Dans un autre lycée, celui de Nişantaşı, c'est près de 200 élèves qui ont rejoint la lutte sur les 320 que compte l'établissement. La police a été mandatée sur place avec une répression qui ne s'est pas fait attendre, notamment des caméras mises en place dans le bureau du proviseur, des menaces à peine voilées, des policiers armés jusqu'aux dents de manière intimidante aux abords des lycées, mais visiblement pas de quoi intimider ces jeunes, comme le jeune Tunç, âgé de 17 ans, qui dit « on a peur bien sûr, mais on est en colère et on sait pourquoi on se bat ». Et quand le journaliste lui demande ce qu'il attend, il ne parle pas du principal parti d'opposition, le CHP, avec le maire mis en prison. Il ne parle pas non plus d'un retour à la normale. Ce qu'il veut, dit-il, c'est tourner la page Erdogan. C'est la seule qu'on ait connue depuis qu'on est né. Et c'est un petit peu ce qui ressort de tout ce mouvement qui touche une partie de la Turquie. C'est surtout l'envie de faire dégager le président Erdogan. Et d'ailleurs, celui-ci le sait, puisque 3 sondages récents montrent une chute libre de sa popularité. 25% seulement des sondés pensent que le pays est bien dirigé. Et ainsi, même Monsieur Selvi, qui est là, une plume du quotidien plutôt très pro-pouvoir, le quotidien Hürriyet, avoue que des erreurs ont été faites. Vous le savez, cette grogne générale a été déclenchée le 19 mars par l'arrestation du principal opposant à Erdogan, Ekrem İmamoğlu, le très populaire maire de Istanbul. La révolte continue donc à souffler sur le Bosphore. Allez, on aime bien se quitter en musique et avec un petit lien avec l'actualité, je vais vous passer un morceau du groupe Kneecap, un groupe de rap irlandais qui a suscité la controverse au festival Coachella aux États-Unis par ses messages anti-Israël. Le groupe persiste et signe, tout en se défendant d'attiser la haine ou de soutenir d'une quelconque manière le Hamas. Ce trio de rap irlandais avait diffusé un panneau « Israël commet un génocide contre le peuple palestinien » et ils avaient écrit aussi de manière pas très subtile « Fuck Israël, libérez la Palestine ». C'était pendant leur concert donc à Coachella en Californie. « Nos déclarations ne sont pas agressives », ont écrit les rappeurs dans un communiqué transmis jeudi dernier à l'AFP. « Assassiner 20 000 enfants, oui, ça c'est agressif. » Ou alors exécuter 15 médecins et les enterrer avec leurs ambulances. Ce trio rappe en anglais et en irlandais. Il défend la langue irlandaise comme un cri anticolonialiste face à la puissance britannique. Et bah, visiblement, leurs prises de position politique vont leur coûter quelques concerts, puisqu'ils sont bien partis pour se faire déprogrammer de deux gros festivals qui ont lieu en Allemagne cet été, le Southside et le Hurricane. Allez, on écoute le morceau Get Your Brits Out, avec un petit côté un peu clubbing à l'anglaise. C'est Kneecap, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que jeudi c'est 1er mai, donc on va aller se retrouver dehors. Who's back on the news? It's your favorite Republican hoots. It's your fella with the nigger shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose. Two blues and a pint that's stout. I never you may never smells like trout. Fuck, Coach K, touch after me. Yeah, young Stalford, Douglas, and there you pay. Got black, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rap finished. I'm gonna say this once. You're gonna all stay, just don't be constant. Don't be running around like silly old times. Just take these jokes, I'ma go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. V and DUP harassing me, but now we're all on the yokes and it's starting to be a good night out. They forgot all about the time that I said something like Brits out. Arlene's throwing shapes off a yoke, nearly killed her. Jeffrey Donaldson's lost all his filters. Shaw ditch, mate, take two sticks. He got me in a headlock and give me a kiss and I crit. Birds having the crack, showing everyone his old tattoo on his back. Arlene said, relax, or you'll get sacked. Dirt make toga buggy, things get weird when you're whack. Brits out for the night, then we landed in Thompson's. Two tunnels and a double drop to see what happens. Sammy wasn't getting out back at the door. And now he's at the front end platform. Squite na hee, and you're yokes la hee. And it's the mill of the fee, creek knee. Daisies are sweet, they're sweeties. I'm eating them like sweeties. Malamore, cooler bottles, August Malaminis. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out. Get your Brits out, we're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one. Rash shaking shock and things are getting crusty. Arlene or McLay and she's getting touchy. Must be just my gal or new youth, cause she whispered in my ear, but like the beat choked in a boom right into her face, cause the room was spinning all over the place. I couldn't stand, couldn't sit, but I kept her written in my best mate. Is a distinguished Brit. We're at the afters and it's a disaster. Concert talking politics, there's a lack of laughter. Sky getting out on the sofa, Arlene's chin Marlowe off her head, she believes she sinned. Donaldson has started with his homophobic chat, so everyone has started on him, that's enough of that. Stalford's licking coke off a plate. You've got issues, mate. You've got issues, mate. Issues, mate. Issues, mate. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out, we're on a mad one.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.